Leçon 18. Un manuel en petits groupes. La valeur des petits groupes pour la formation de disciples. Le ministère des petits groupes prend de nombreuses formes à travers le monde. Il existe de nombreux types de petits groupes conçus pour des objectifs différents. Les petits groupes peuvent se réunir pour l'étude, la responsabilité spirituelle, le ministère, la prière ou des projets spéciaux. Certaines églises sont divisées en groupes qui se réunissent dans des maisons. Les groupes fonctionnent comme de petites églises. Les églises du Nouveau Testament fonctionnaient apparemment ainsi. Les églises en croissance et efficaces ont généralement une sorte de système de petits groupes. Dans cette section, nous parlerons de l'efficacité des petits groupes pour la formation de disciples. Le modèle Wesleyan. John Wesley, Grande-Bretagne, 18e siècle, n'a pas été le premier à organiser de petits groupes, mais il a développé un système très efficace. Wesley a développé un système de formation de disciples avec des groupes de différentes tailles appelés sociétés, classes et bandes. Voir A Plain Account of the People Called Methodists dans The Works of John Wesley, volume 8, Grand Rapids, Zondervan, pages 249 à 25-8. Les méthodes de Wesley n'étaient pas un système complet au début, mais ont été développées progressivement pour répondre aux besoins. Beaucoup de convertis de Wesley demandaient des encouragements, des conseils et des prières. Parce qu'il y en avait beaucoup, il s'est arrangé pour qu'ils se rencontrent tous les jeudis. À chaque endroit où Wesley et ses prédicateurs ont apporté l'Évangile, ils ont organisé les convertis en groupes qui se réunissaient régulièrement. Parce que les congrégations étaient nombreuses, beaucoup ne pouvaient pas parler de leurs besoins spirituels personnels et ne recevaient pas l'attention dont ils avaient besoin. De plus petits groupes ont été formés, appelés classes, où les dirigeants servaient de pasteurs pour encourager et guider les membres. Tout membre qui continuait à pécher ouvertement et ne changeait pas était retiré de l'adhésion et n'était pas autorisé à venir à la réunion. Des groupes plus petits que les classes ont été formés afin que les membres puissent partager leur lutte spirituelle et se rendre mutuellement des comptes. Ces petits groupes étaient appelés « bandes ». Lors de ces réunions, le responsable décrivait son propre état spirituel, puis posait aux autres des questions sur leur état, leurs péchés et leurs tentations. Dans ces groupes, les membres étaient tous du même sexe. Le succès de Wesley a amené le célèbre George Whitefield à faire cette déclaration. Mon frère Wesley a agi avec sagesse. Les âmes qui se sont éveillées sous son ministère. Il les a rejointes en classe et a ainsi préservé le fruit de son travail. Je l'ai négligé, et mon peuple est comme une corde de sable. Les méthodes de Wesley ont été poursuivies par l'Église méthodiste américaine dans les premières années, mais ses principes de disciples et ses doctrines ont été négligés par le méthodisme moderne. Comprendre l'Église essentielle. Le plus ancien bâtiment d'église qui a été trouvé a été construit vers 250 après J.C. Pendant les deux premiers siècles, l'église se considérait comme un peuple et non comme un bâtiment ou une organisation. L'église est composée de groupes de croyants qui adorent ensemble, évangélisent et obéissent à la Bible. De petits groupes de personnes sont les éléments de base de toute structure d'église efficace. Un programme de formation de disciples en petits groupes n'est pas une nouvelle institution qui deviendra un jour obsolète. Ce n'est pas une nouvelle méthode qui peut fonctionner dans certains endroits et pas dans d'autres. Au lieu de cela, les petits groupes sont les éléments de base de l'Église. Le ministère en petits groupes peut être exercé de différentes manières pour relever les défis auxquels toute Église locale est confrontée. Une église n'atteindra pas son but, à moins que ses membres ne soient régulièrement édifiés et formés dans un cadre plus personnel que l'ensemble de la congrégation ou la plupart des écoles du dimanche. Une mise en garde. Les petits groupes sont aussi spirituels que les personnes impliquées. S'ils ne sont pas des disciples engagés avec la priorité de plaire à Dieu, de vivre fidèlement et d'accomplir la mission de l'église, il y a de nombreuses façons pour le groupe de mal tourner. La nécessité d'une responsabilité spirituelle. Avoir une responsabilité spirituelle signifie établir une relation avec une personne ou un groupe à qui vous rapportez votre condition spirituelle, votre succès ou votre échec dans les disciplines spirituelles et vos engagements pour le développement. Ils vous disent quand ils pensent que vous faites mal. Vous leur dites vos engagements et ils vous demanderont plus tard si vous tenez vos engagements. Le fondement biblique de la responsabilité spirituelle dans une communauté chrétienne saine est expliqué plus en détail dans une section précédente. Sans responsabilité spirituelle, nous n'accomplirons pas tous les commandements des Écritures et nous négligerons un moyen que Dieu a conçu pour nous donner la grâce. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Une personne n'avouera pas ses fautes privées, sauf dans une relation qui rend les choses faciles. S'il ne se confesse pas à quelqu'un qui prie pour ses fautes, il néglige les moyens que Dieu a conçus pour répondre à ses besoins. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. À moins de bien connaître quelqu'un, nous ne savons pas quels sont ses fardeaux les plus graves. Nous ne pouvons pas accomplir ce commandement scripturaire sans être dans une relation qui le rend possible. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. Nous devons nous examiner de près les uns les autres avec un motif d'amour afin de voir quels encouragements et quels reproches sont nécessaires. Les encouragements seront superficiels et les reproches seront résistés à moins que nous n'ayons une relation spéciale avec l'autre personne. Les questions suivantes peuvent aider une personne à déterminer si la responsabilité spirituelle est établie ou non dans sa vie. Quelle relation ai-je qui me permette? Quelqu'un pour m'aider à porter mes fardeaux les plus graves? Moi pour avouer mes fautes à quelqu'un? Moi pour aider quelqu'un à porter ses fardeaux? Quelqu'un pour répondre à ma condition spirituelle actuelle? Y a-t-il des horaires? Quand il n'y a personne sur qui je peux compter? Quand je suis content que personne ne connaisse mon état? Serais-je gêné de signaler mon heure de prière ou d'étude biblique? La plupart des églises ne s'acquittent pas de leurs responsabilités spirituelles à moins qu'elles ne mettent en place un système pour le faire. Pour beaucoup, il s'agit d'un système de petits groupes. Qualification d'un chef de petit groupe. Jésus a démontré la priorité de la vie de disciple. Dès le début de son ministère, il choisit quelques hommes qui recevraient la responsabilité de guider l'Église. Il n'a pas passé tout son temps à prêcher aux milliers de personnes qui l'ont suivi. Au lieu de cela, il prenait souvent le temps de former les 12 apôtres. Il a étendu son ministère à travers ceux qu'il a formés. Une personne qui fait du disciple devrait avoir les caractéristiques suivantes. Il se peut qu'il n'excelle pas dans toutes les qualités, mais il doit essayer de s'améliorer dans toutes les qualités. S'il n'en manque aucun, il sera beaucoup moins efficace. 1. Maturité spirituelle. Il doit avoir les qualités de maturité spirituelle décrites dans une section précédente. S'il n'est pas spirituellement mature, il ne donnera pas le bon exemple et n'aura pas l'expérience dont il a besoin. 2. Disponible. Si son emploi du temps est déjà trop chargé et mal géré, il n'est pas disponible pour le ministère en petits groupes. Il doit en faire une priorité. 3. Fiable. Il doit être une personne qui remplit ses engagements. Il doit être capable de respecter les rendez-vous. Il doit être capable de se rappeler de tenir les autres responsables de leurs engagements. 4. Confiant. Il doit croire qu'il est capable d'apprendre à diriger un groupe. S'il en a la capacité mais n'y croit pas, il a d'abord besoin d'expériences guidées qui lui donneront confiance. 5. Capable de résoudre les conflits. Il doit être capable de garder la bonne attitude lorsque les gens ne sont pas d'accord et causent des problèmes. Il doit être capable d'aider à résoudre les conflits entre les autres. 6. Capable d'enseigner. Les gens comprennent-ils ces explications? Un leader doit être quelqu'un qui ne confond pas les gens. 7. Affamé de la parole de Dieu. Il doit avoir une jouissance de la parole de Dieu afin qu'il puisse inviter les autres à en profiter aussi. Il doit rendre la Bible importante dans sa relation avec Dieu. 8. Dépendant de Dieu. Il doit se rendre compte que les résultats spirituels ne peuvent se produire que par l'œuvre du Saint-Esprit. Il doit être prêt à coopérer avec l'Esprit Saint. Il doit dépendre de l'onction de Dieu. Il ne doit pas être sûr que ses explications réussiront à cause de ses seules capacités. 9. Prêt à servir. Il doit être une personne qui sent qu'elle fait quelque chose de précieux lorsqu'elle sert les autres. Il ne devrait pas être une personne qui veut être servie. Il ne devrait pas chercher un ministère dans le but de montrer ses talents. Il doit être à l'écoute des besoins et prêt à faire du bénévolat. 10. Sous l'autorité spirituelle. Il devrait être spirituellement responsable devant quelqu'un. il doit suivre les directives des chefs spirituels. 11. Fidèles à l'Église. Le chef de groupe doit être un membre engagé d'une église locale. Le ministère de disciples devrait amener les gens à apprécier l'Église et à s'y engager davantage. 12. Le zèle pour réussir. S'il a le zèle pour réussir, il n'abandonnera pas de sitôt. Il saura s'adapter aux circonstances. Il cherchera des informations pour l'aider à être plus efficace. Il prendra l'initiative lorsqu'il y aura des problèmes ou des opportunités. Il aura de l'énergie et de l'enthousiasme. 13. Doctrinalement exact. Il doit avoir une bonne base de doctrine biblique et évangélique. 14. Formé pour le ministère. Il n'est pas nécessaire que la formation ministérielle ait lieu dans un établissement d'enseignement. La formation commence par l'observation, comme un croyant voit comment le ministère est accompli. La formation augmente avec la participation, car on lui donne des responsabilités sous la direction. La lecture et l'étude de bons documents sont très importantes. Élaboration d'un programme de formation de disciples. La meilleure façon de devenir disciple est de passer par une église locale qui comprend la responsabilité et la priorité de la formation de disciples en travaillant dans l'unité. Par conséquent, ces directives s'adressent aux dirigeants et aux membres engagés d'une église. Si une église se rend compte qu'elle doit faire mieux dans la formation de disciples, elle devrait d'abord étudier les Écritures et les points de secours sur la formation de disciples. Les leaders peuvent présenter le matériel. Tous les membres engagés de l'Église devraient être impliqués si possible afin qu'ils puissent partager la vision. Une deuxième partie du développement consiste à observer ce que l'Église fait déjà. La plupart des Églises ont déjà des groupes en activité, même s'ils n'ont pas délibérément lancé un programme en petits groupes. Par exemple, il peut y avoir un groupe de musiciens dans l'église qui se réunit fréquemment. Il peut y avoir une chorale qui pratique. Il peut y avoir un conseil de diacre. Il peut y avoir des classes d'école du dimanche et les instructeurs de l'école du dimanche peuvent aussi former un groupe. Les jeunes de l'église peuvent se réunir de temps en temps. Des comités peuvent exister pour s'occuper de diverses responsabilités. Un groupe peut se former de manière informelle de personnes qui travaillent ensemble sur un projet. Il peut y avoir des familles de l'Église qui se réunissent de temps en temps pour communier. Il peut y avoir des études bibliques à domicile et des réunions de prière. Ces groupes ne se sont peut-être pas formés dans le but de former des disciples ou de rendre des comptes spirituels, mais ils peuvent aider à servir ces objectifs. Toute église qui a une vie spirituelle a déjà des groupes qui opèrent pour soutenir cette vie. Lorsqu'une église décide d'améliorer son programme de formation de disciples, elle doit examiner les groupes existants et découvrir ce qui se passe, puis réfléchir à la manière dont les objectifs peuvent être mieux atteints. De nouveaux groupes peuvent être nécessaires. Peut-être que différents types de groupes sont nécessaires. Il peut y avoir des groupes qui donnent une formation pratique pour le ministère. Il peut y avoir des groupes qui étudient principalement la Bible et prient. Il peut y avoir de petits groupes pour une responsabilité spirituelle sérieuse. Le but du groupe détermine qui doit être là et comment le groupe doit fonctionner. Par exemple, un groupe de responsabilité spirituelle sérieuse devrait compter moins de 10 personnes. Si le groupe est trop grand, la confidentialité est réduite, le partage devient superficiel, un plus grand contrôle est nécessaire. Moins de participation est possible et l'assiduité a tendance à être moins bonne. La profondeur du partage personnel sera limitée si les hommes et les femmes sont présents. L'objectif du groupe détermine s'il doit être ouvert ou non à de nouveaux membres. Si le but est la responsabilité spirituelle, il ne devrait pas s'agir d'ajouter de nouveaux membres après que le groupe s'est réuni plusieurs fois. La plupart des gens ne parleront pas de leurs conditions spirituelles tant qu'ils ne se sentiront pas en sécurité avec les autres membres du groupe. Si le but du groupe est de couvrir une série de leçons, il n'est pas pratique d'ajouter des personnes tout au long de la série de réunions. Il peut y avoir un groupe pour les nouveaux convertis. Shepherd's Global Classroom offre un livre de 26 leçons pour les nouveaux croyants. Cette ressource gratuite, Leçons pour cultiver la formation de disciples, est disponible en téléchargement sur shepherdsglobal.org. Par conséquent, ce groupe a besoin d'une série tournante de leçons afin que de nouvelles personnes puissent le rejoindre à tout moment. Les dirigeants doivent se rendre compte que certains nouveaux convertis abandonneront. Le fait que certaines personnes quittent le groupe ne signifie pas que le groupe ne va pas bien. Même si certains abandonnent, un nouveau groupe de convertis doit être ouvert à de nouvelles personnes. Si un groupe est destiné à la formation, au ministère ou à un développement spirituel plus profond, les membres du groupe doivent être des personnes qui désirent grandir spirituellement et qui sont prêtes à s'engager dans les objectifs du groupe. Si certains membres ne sont pas engagés, le groupe ne réussira pas aussi bien à atteindre son objectif. La plupart des membres doivent être recrutés sur invitation personnelle. N'attendez pas que les gens demandent à vous rejoindre. Tout le monde dans l'Église ne s'impliquera pas dans un programme en petits groupes. Si vous êtes un leader dans l'Église, ne faites pas fuir les gens en les critiquant parce qu'ils ne font pas partie d'un petit groupe. Faites la promotion du ministère de groupe en décrivant ses avantages. Lors de la première réunion, assurez-vous que tout le monde comprend l'importance du groupe. Partagez les Écritures et les informations qui montrent l'importance de la vie de disciple. Pour faciliter la participation, le groupe peut être programmé pour se réunir pendant un certain nombre de semaines. Expliquez que le groupe couvre une série spécifique de leçons et dites-leur quand la série sera terminée. De cette façon, chaque membre sait exactement à quoi il s'engage. Mettez l'accent sur la nécessité d'une assiduité parfaite. À la fin de cette période, le groupe peut recommencer avec ceux qui veulent continuer. Scénario à prendre en considération. André est croyant depuis plusieurs années. Il est membre de l'Église et aide dans son Église. Il est préoccupé par le fait que son Église n'a pas de plan pour la formation de disciples. Il pense que l'Église devrait créer de petits groupes, mais les dirigeants ne sont pas intéressés. Que doit faire André? André devrait parler aux dirigeants de l'Église et leur demander leur approbation pour diriger un petit groupe. Il ne devrait pas critiquer le ministère de l'Église, mais plutôt décrire les avantages qui découleraient du groupe. Si le groupe se débrouille bien, l'Église commencera à comprendre les avantages de ce genre de ministère. Diriger un groupe efficace. Au début d'un groupe, il y a de l'excitation et de l'attente. De nombreux membres ne savent pas exactement à quoi s'attendre, mais ils espèrent obtenir de l'aide du groupe. Les instructions suivantes aideront le groupe à être efficace et à remplir son objectif. Il existe des principes importants pour le fonctionnement des petits groupes. Si le leader aide le groupe à suivre ses principes, il réduira la frustration et le découragement. La première réunion peut être différente des autres parce que le groupe apprend comment les réunions se dérouleront. Cependant, la première réunion définira le style des réunions futures. Si une personne ne parle pas lors de la première rencontre, elle s'attendra à rester silencieuse à l'avenir. Si quelqu'un domine la discussion, le groupe s'attendra à ce que les réunions futures soient dominées par la même personne. Si la réunion est désordonnée, ils s'attendront à la même chose à l'avenir. Si la réunion ressemble à une classe avec peu de participation, ils s'attendront au même modèle. Certains membres peuvent se retirer après quelques réunions parce que le groupe n'est pas ce qu'ils attendaient. Il est important de bien diriger la réunion afin que les membres qui s'attendaient aux bonnes choses ne soient pas déçus. Ligne directrice sur l'efficacité. 1. Prévoyez que le groupe se réunira une fois par semaine, si possible. Certains peuvent avoir besoin d'aide pour organiser la garde des enfants. 2. Le format des réunions devrait être 1. Le temps d'étude, puis 2. Le partage des besoins personnels pour la prière, puis 3. La prière. Si l'objectif principal du groupe est l'étude, le temps d'étude peut être long et les autres parties courtes, mais les trois parties devraient toujours être incluses. Si le but du groupe est la responsabilité spirituelle, le temps d'étude peut être court, mais ils devraient avoir du matériel qu'ils étudient. Si un groupe a des échanges et des discussions personnelles, mais qu'il n'y a pas de matériel pédagogique à étudier, il aura tendance à devenir chaotique. Il sera dominé par la personnalité de certains membres. La documentation de la leçon les fait tous réagir à la vérité au-delà de ce qu'ils ont dans la tête. 3. Commencez et terminez les réunions à l'heure. Si vous commencez et terminez tard, ceux qui apprécient leur propre temps commenceront à venir plus tard ou sauteront certaines réunions. 4. Fixez la date à laquelle le groupe se terminera. Les membres doivent savoir quelle est la durée de leur engagement. Normalement, les nouveaux membres ne devraient pas être autorisés à rejoindre le groupe après plusieurs réunions, à moins que le groupe ne fasse tourner les leçons pour les nouveaux convertis. Si le groupe étudie une série de leçons, le nombre de leçons peut fixer le nombre de semaines qu'ils se réuniront. S'ils se réunissent pour une responsabilité spirituelle, ils pourraient fixer une période de 6 mois. À la fin, ils peuvent s'organiser à nouveau. À ce moment-là, certains membres peuvent partir, et le groupe peut envisager d'autoriser ou non de nouveaux membres à se joindre. 5. Lorsque vous étudiez, mettez l'accent sur un but qui change la vie plutôt que sur la connaissance pour elle-même. Un membre estimera que le groupe vaut la peine s'il est capable de tirer des applications personnelles et spécifiques de l'étude. 6. Assurer le suivi des engagements. Si quelqu'un a partagé un problème et a convenu qu'il devrait prendre une certaine ligne de conduite, demandez-lui lors de la prochaine réunion s'il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. 7. Le dirigeant doit être disponible pour rencontrer un membre individuellement afin de lui donner des conseils spirituels. D'autres membres peuvent également se réunir à d'autres moments pour s'encourager. 8. Choisissez un bon lieu de rencontre. Il doit s'agir d'un lieu de rencontre informel avec une atmosphère familiale. Les sièges doivent être aussi circulaires que possible, afin que chaque membre puisse voir le visage de tous les autres membres. Cela encouragera la participation. Rendez-vous dans un endroit où il n'y aura pas d'interruption ou de distraction. 9. Adoptez de bonnes habitudes d'écoute. Les signes d'une bonne écoute sont le contact visuel, une expression concentrée, l'ignorance des distractions et la réactivité à l'humour de l'orateur ou à d'autres émotions. 10. Assurez-vous qu'aucun membre ne reste toujours silencieux. Adressez une question à un membre qui ne parle pas beaucoup. Qu'en pensez-vous, Michel? 11. Ne faites pas pression sur un membre pour qu'il partage quelque chose de personnel. Au lieu de cela, essayez de créer une atmosphère où il se sentira libre de parler. Renforcez la confiance d'un membre en lui donnant un contact visuel et en le félicitant de ce qu'il dit. 12. Essayez de poser des questions auxquelles ils peuvent répondre pour renforcer leur confiance. Si quelqu'un donne une mauvaise réponse, essayez d'affirmer quelque chose de bien à propos de la réponse avant de la critiquer. 13. Essayez d'affirmer chaque commentaire d'une manière ou d'une autre avant de le critiquer. 14. Si quelqu'un a tendance à trop parler et à répondre à toutes les questions, trouvez un moyen de le limiter. L'une d'entre elles consiste à adresser les questions à des membres spécifiques, où vous pouvez demander « Qu'en pensez-vous ? » Dans une discussion, vous pourriez dire « Écoutons quelqu'un qui n'en a pas encore parlé. » Si un membre parle encore trop, le leader peut lui parler en dehors de la réunion. Il pourrait dire quelque chose comme ceci. « Alain, tu es un penseur vif et capable de répondre rapidement dans les discussions, mais je crains que certains des autres ne participent pas si nous répondons à tout rapidement. Pouvez-vous m'aider à impliquer tout le monde ?» 15. Ne laissez pas 2 ou 3 membres avoir leur propre discussion tout en ignorant le groupe. Si quelqu'un veut continuer à discuter pendant longtemps à propos de quelque chose, dites-lui que la discussion devra être terminée plus tard en dehors de la réunion. 16. Ne permettez à personne d'interrompre les autres. Levez la main, arrêtez fermement l'interrupteur et laissez le premier haut-parleur se terminer. Sinon, une discussion sera toujours dominée par les membres les moins maniérés. Les personnes qui sont moins affirmées se sentiront frustrées de ne pas pouvoir terminer leur phrase. 17. Écoutez les plaintes. Toute plainte peut révéler un problème qui peut être corrigé. N'ignorez pas les signes d'insatisfaction. Si quelqu'un n'est pas satisfait de la réunion de groupe, il se peut qu'il n'en comprenne pas l'objectif ou qu'il ait une plainte valable. 18. Si un membre agit constamment de manière hostile, perturbatrice, argumentative ou ennuyée, il peut ne pas accepter les objectifs du groupe. Le groupe n'est peut-être pas ce à quoi il s'attendait. Parlez-lui en privé pour l'aider à voir le but du groupe. 19. Le leader n'a pas besoin de connaître la réponse à chaque problème. Son rôle n'est pas d'avoir la réponse à tout, mais d'amener le groupe à porter des fardeaux dans la prière. 20. Soyez flexible et patient avec les interruptions de l'horaire. Rappelez-vous que les événements de notre vie font partie du développement que Dieu a de nous. Un problème est une opportunité. 20 et 1. Si un membre prend souvent toute la réunion pour faire part de ses besoins, proposez-lui de le conseiller à un autre moment. Sinon, les autres membres auront l'impression qu'on leur vole la réunion. Ne laissez pas le groupe perdre son objectif, à moins que les membres ne conviennent ensemble que le but doit être changé. 22. Ne laissez pas les discussions devenir subversives. Ne laissez pas le groupe devenir un forum pour critiquer l'église locale et d'autres dirigeants. 23. Rappelez-vous que l'efficacité du groupe dépend de la puissance de Dieu à l'œuvre à travers lui. Le groupe n'est qu'une structure scripturaire que Dieu utilise.